Oui, on va commencer. Je rappelle tout d'abord que tout à l'heure à 11h, nous aurons un séminaire du professeur Tönnies, que je suis heureux d'accueillir ici aujourd'hui, du Max Planck Institute de Göttingen, qui va nous parler d'un problème passionnant, qui est le problème des agrégats d'hélium. Le titre exact est « Helium 4 clusters, how many atoms are needed to make them superfluid ?» Et le dernier séminaire de l'année scolaire aura lieu donc le mardi prochain, le 15 décembre à 11h, et ce sera Franck Laloé qui nous parlera de « Au-delà de la théorie du champ moyen, un mécanisme pour la superfluidité dans les gaz ». Bien, alors aujourd'hui j'aborde un nouveau chapitre, aujourd'hui je le continuerai la semaine prochaine, qui a pour titre « Équation de Gross-Pitevsky dépendant du temps ». Je voudrais peut-être d'abord faire une introduction rapide. Dans les précédents chapitres, nous avons étudié en détail le problème de l'équilibre. Nous avons supposé qu'il y avait un condensat dans un piège, la plupart du temps harmonique, à la température T égale 0 degré, et après avoir attendu un temps suffisamment long pour que le système soit en équilibre. Et j'ai, par une méthode variationnelle, introduit l'équation de Gross-Pitevsky indépendante du temps, qui donne la meilleure fonction d'onde sous forme d'un produit de n particules qui décrit une telle situation. Et nous avons obtenu une équation linéaire pour décrire cette situation. Nous en avons tiré un certain nombre de résultats, notamment à la limite des grandes densités, où il y a beaucoup de la densité du condensat est importante, et où il a été possible, grâce à l'approximation de Thomas Fermi, d'obtenir des prédictions analytiques sur la forme du condensat, sur sa largeur, sur sa forme qui n'est plus gaussienne mais parabolique, et toute une série de résultats intéressants ont été établis, qui ont d'ailleurs été confrontés avec succès à l'expérience. Alors aujourd'hui, je voudrais, après avoir introduit donc cette équation pour étudier l'état d'équilibre, nous avons pris une autre approche, qui est l'approche de Bogoliubov, qui est une approche quantique, où on est parti de la Hamiltonienne du problème exact, et en faisant des approximations sur le sous-espace dans lequel on diagonalise cet Hamiltonien, et en faisant des approximations sur l'Hamiltonien lui-même, on a réussi à le diagonaliser et à obtenir un certain nombre de résultats, notamment sur les excitations élémentaires, les premiers états excités, sur la fonction de corrélation spatiale, sur les corrélations spatiales qui existent entre les particules. La méthode de Bogoliubov peut être généralisée à un système qui n'est plus homogène comme un gaz dans une boîte, qui est le cas que j'avais étudié, mais un système qui est dans un piège harmonique, donc qui est un gaz inhomogène. Mais c'est un peu plus compliqué que l'approche de Bogoliubov pour un gaz homogène, donc je ne le ferai pas. Je prendrai une approche plus simple qui donne des résultats importants, surtout pour les premières excitations, qui est l'approche de Gross-Pitevsky dépendant du temps. Donc je vais aborder ici les problèmes dépendants du temps par Gross-Pitevsky. Et je voudrais en donner deux exemples qui font l'étude d'expérience. D'abord, un exemple qu'on pourrait appeler les modes propres de vibration. Le potentiel dans lequel est plongé le condensat peut être modulé de manière à faire sortir le condensat de son état d'équilibre, éventuellement de manière résonante, si on le module à une de ses fréquences propres. On le met en mouvement, on arrête la modulation du potentiel, il redevient statique, et on étudie comment le système qui a été écarté de son état d'équilibre vibre. Et on mesure les fréquences de vibration, on mesure les fréquences propres de vibration. Ça, c'est un premier type d'expérience qui a été fait dans plusieurs laboratoires. On peut en particulier étudier ce qui se passe aussi quand l'amplitude de vibration devient suffisamment importante pour qu'on sorte du régime linéaire. On peut aussi, une deuxième expérience très importante, faire ce qu'on appelle une expansion balistique. C'est-à-dire couper brusquement à T égale 0 le potentiel de piégeage. À ce moment-là, le condensat qui n'est plus maintenu rentre en expansion. Il grandit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on mesure sa forme, parce qu'en général, au début, il est trop petit comparé au pouvoir de résolution de l'optique qui lui permet de faire son image. Donc on le laisse grandir, et il s'agit de mesurer comment il va grandir, comment, quelle est la dynamique de cette expansion. Voilà donc deux exemples très importants qui font l'objet donc d'études expérimentales et qui faudrait essayer de rendre quantitatifs. Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est vous établir soigneusement, au moins donner les grandes lignes du calcul, de la dérivation d'une telle équation, parce que la plupart du temps, on passe très vite dessus, ou alors on prend une approche théorie des champs, où on part de l'équation du mouvement du champ quantique, où on prend sa valeur moyenne, et où on remplace des produits de trois opérateurs, champ quantique, par le produit des trois valeurs moyennes. C'est une méthode aussi qui est valable, mais qui est un petit peu, qui demande d'être un peu plus justifiée. Donc je préfère prendre une approche beaucoup plus concrète, comme celle que j'ai utilisée pour démontrer l'équation de Gross-Witaïski dépendant du temps, qui est une approche variationnelle. Alors, l'idée est la suivante, je donne d'abord l'idée générale. L'équation Schrödinger exacte du système de n particules est donnée ici quand le potentiel extérieur dans lequel sont plongées les particules de l'extérieur est un potentiel dépendant du temps. Quand ce potentiel dépend du temps, évidemment le problème dépend du temps et on ne peut pas le résoudre uniquement par l'équation de Gross-Witaïski indépendant du temps. Donc, il faut étudier comment psi de R1, R2, Rn et de T varie au cours du temps. Et alors, on a le terme d'énergie cinétique, l'interaction avec le potentiel extérieur et l'interaction des particules. En général, on ne sait pas résoudre cette équation, bien sûr, et il faut essayer de la résoudre de manière approchée. Alors, la méthode qu'on va suivre ici, c'est la suivante. C'est une méthode, une idée variationnelle. On va d'abord démontrer, ou tout au moins rappeler, qu'une telle équation de Schrödinger, comme la plupart des équations physiques, peuvent être déduites d'un principe variationnel. On peut introduire un Lagrangien et une action telle que cette équation décrivent la fonction d'onde qui rend l'action extrémale. C'est-à-dire c'est la fonction d'onde pour laquelle l'action qu'on a introduite est à la plus petite valeur possible. Si la fonction d'onde variant dans tout l'espace de Hilbert des fonctions de n particules identiques. Alors, c'est très commode qu'en physique, on peut mettre une équation fondamentale sous forme variationnelle, parce qu'après, pour résoudre le problème de manière approchée, on peut se limiter à un sous-espace de l'espace de Hilbert et faire varier psi dans ce sous-espace. Alors c'est ce que nous allons faire après. Au lieu de faire varier psi dans tout l'espace de Hilbert, on fait varier psi dans le sous-espace des fonctions produites de n fonctions d'onde identiques. Phi de R1 et de T, phi de R2 et de T, phi de Rn et de T. Visiblement, cette fonction obéit au postulat de symétrisation, elle est complètement symétrique. Et on se pose la question, phi maintenant peut être quelconque, mais qu'on fait varier phi, psi qui est donné par cette expression varie dans un sous-espace de l'espace du zeta, et on peut se demander à quelle équation doit satisfaire petit phi pour que f soit extrémal dans ce sous-espace. Et qu'on fait ça, on tombe sur l'équation de Gross-Witaïski dépendant du temps. Donc on suit exactement la même démarche que pour l'équation de Gross-Witaïski indépendant du temps, ou alors on essayait de minimiser la valeur moyenne de l'énergie, psi à psi sur psi psi. Alors, sans entrer dans les détails des calculs, je vous donne les grandes étapes. Donc j'ai donné ici son principe. Je voudrais maintenant rappeler très brièvement qu'une équation d'un champ, comme l'équation de Maxwell, comme l'équation de Schrödinger, peut être déduite d'un principe variationnel. Considérons un champ psi de R et de T, je prends un champ à une composante, c'est valable pour un champ à plusieurs composantes comme le champ électromagnétique, ici je prends un champ complexe, et j'introduis une densité de Lagrangien L, qui est une fonction de psi étoile, je ne remets pas R et de T, hein, mais c'est psi étoile de R et de T, etc. Des dérivées spatiales, gradient psi étoile, de psi et psi étoile, et des dérivées temporelles, que je note pour simplifier, psi point, psi point étoile. Et l'action, c'est l'intégrale de la densité de Lagrangien dans l'espace-temps, de T1 et T2 dt, et surtout l'espace ordinaire des 3R de L. Et les équations du champ vont être obtenues en écrivant que l'équation, quand l'équation est satisfaite, à ce moment-là, ce nombre S est extrémal. Alors comment fait-on? On fait varier psi de dpsi, psi étoile varie de dpsi étoile, avec la condition que les variations soient nulles aux deux bords de l'intervalle T1 et T2, c'est-à-dire que delta psi et delta psi étoile sont nuls quel que soit R pour T égale T1 et T égale T2. D'autre part, il est clair que la variation du gradient de psi, c'est le gradient de la variation, et que la variation de la dérivée temporelle de psi, c'est la dérivée temporelle de delta psi. On calcule ds, delta s en fonction de delta psi et delta psi étoile. On élimine ces deux quantités par des intégrations par partie, qu'il faut reporter le delta sur psi et non pas sur delta psi ou sur psi point. Et on obtient delta s égale une intégrale sur r et t de delta psi qui multiplie une expression, plus delta psi étoile qui multiplie une autre expression. Comme les parties réelles et imaginaires de psi peuvent être variées indépendamment, il en est de même de delta psi et delta psi étoile. Et donc la condition delta s égale 0, quel que soit delta psi, revient à annuler le coefficient de delta psi et de delta psi étoile. Et qu'on annule par exemple l'un de ces deux coefficients, on trouve une équation aux dérivées partielles satisfaite par l'intensité de Lagrangienne, moins d sur dt de dl sur d psi point étoile, plus dl sur d psi étoile, moins gradient de dl sur d de gradient psi étoile égale 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de Lagrange. Et on peut, en choisissant convenablement le Lagrangien, retrouver de cette manière les équations de Maxwell, déduites d'un Lagrangien électromagnétique, et comme je vais vous le montrer maintenant, l'équation de Schrödinger. Alors, est-ce qu'on peut obtenir l'équation de Schrödinger à partir d'un tel, une telle démarche? La réponse est oui. Regardons d'abord le cas simple d'une seule particule. Si je prends une seule particule, le Lagrangien qui conduit à l'équation de Schrödinger a la forme suivante. L égale IH bar sur 2, psi étoile psi point, moins psi psi étoile point, moins h par 2 sur 2m, le produit scalaire de gradient psi étoile par le gradient psi, moins v extérieur psi étoile psi. Alors, à partir de cette expression de L, on calcule sans problème dl sur d psi point étoile, qui vaut moins dh bar sur 2 psi, ici, dl sur d psi étoile, qui vaut ici ih bar sur 2 psi point, plus ici, moins v extérieur psi, et enfin, la dérivée partielle par rapport au gradient de psi étoile, qui est moins h bar 2 sur 2m, gradient psi. Et si je reporte ça dans cette équation-là, j'obtiens immédiatement que d sur dt de dl sur d psi point, c'est-à-dire ih bar 2 psi point, plus dl sur d psi étoile, c'est-à-dire plus ih bar 2 psi point moins v extérieur psi, moins gradient de ceci, c'est-à-dire moins gradient de moins h bar 2 sur 2m, l'absolution psi, c'est moins h bar 2 sur 2m, plus h par 2 sur 2m, la place est psi, et ceci, je retrouve immédiatement l'équation de Schrödinger. Donc, les équations de Lagrange, l'équation de Lagrange correspondant à cet Hamiltonien, à ce Lagrangien, cette densité de Lagrangien, ce n'est rien d'autre que l'équation de Schrödinger. Alors, on généralise ceci immédiatement au cas de n particules identiques. Quand on a n particules en interaction, la première ligne ici, c'est tout simplement le psi étoile, psi point, moins psi, psi étoile, point, mais des n variables et du temps. Ce produit scalaire de deux gradients, il faut maintenant sommer sur toutes les particules et prendre le gradient par rapport à la particule i des deux côtés, et sommer sur i. Et ce terme-là, c'est tout simplement moins toute l'énergie potentielle, énergie extérieure plus énergie d'interaction, que multiplie le produit des deux fonctions, psi étoile et psi. Et quand on fait le même calcul ici, vous vérifiez aisément qu'on obtient l'équation de Schrödinger de n particules en interaction. Donc maintenant que j'ai ce Lagrangien, on peut, sur votre problème, on peut prendre une fonction d'essai qui est un produit de n fonctions d'onde identiques pour R1, pour R2, pour Rn, en normalisant chaque fonction phi phi à 1 et en remarquant, si vous voulez bien, que la dérivée par rapport au temps de psi, psi point, comme c'est un produit ici, c'est la somme des dérivées de phi de RI qui multiplie toutes les autres fonctions, inchangées, sommées sur I. On calcule l'action de cette manière. Alors, quand on calcule, par exemple, l'intégrale de psi point de R1, R2, RNT, psi de R1, RNT, toutes les fonctions se factorisent, n-1 fonction se factorise, comme elles sont normées, ça donne 1, et il me reste phi point de R de T, phi point de R de T, comme R est une variable muette, et que j'intègre sur R, au lieu de l'appeler RI, je l'appelle R, et donc c'est N fois somme de D3R, phi de R étoile, phi point de R et de T. Moi, la même chose ici. Même chose pour le terme d'énergie cinétique. On a un produit scalaire de N gradient, une somme de N produits scalaires gradients, la plupart donnent 1 sauf celui-là, donc j'ai N termes. Idem pour le potentiel extérieur, c'est des opérateurs à une particule. Par contre, pour le terme à deux particules, j'ai NN-1 sur deux paires, donc j'ai plus NN-1 sur deux paires. Et ici, donc, il y a N-2 termes qui sont identiques de part et d'autre qui donnent 1, et ceux qui ne sont pas identiques donnent phi de R de T en module au carré, phi de R' et de T en module au carré, V de R moins R' intégré sur R et sur R'. Voici S. On calcule delta S pour un delta phi et pour un delta phi étoile. On utilise les mêmes relations que tout à l'heure. On fait des intégrations par partie. On annule le coefficient de delta phi étoile. Et on obtient cette équation qui maintenant porte sur phi, qui est IS bar V sur DT de phi de R et de T égale moins S bar 2 sur 2M laplacien plus V extérieur de R et de T phi de R et de T plus, alors ici, comme j'ai deux fois phi étoile, je peux avoir le facteur 2 qui va enlever celui-là, qui va me donner un 2 qui va s'en aller ici, et il va me rester ici, plus N moins 1, somme de D3R', V de R moins R', phi de R' et de T en module au carré, phi de R et de T. Alors cette équation a une signification physique très simple. Si je décris la fonction d'onde des n particules par un produit de n fonctions d'onde identiques, dans un potentiel dépendant du temps, la meilleure fonction d'onde, c'est une fonction d'onde qui obéit à une équation de Schrödinger, décrivant une particule qui évolue dans le potentiel dépendant du temps V extérieur de R et de T, et qui évolue dans le champ moyen créé par les n-1 autres, mais qui maintenant dépend lui aussi du temps, parce que phi de R et de T est une fonction qui n'est plus stationnaire, qui évolue au cours du temps. Et il faut trouver la dépendance en temps de phi de R de T pour que ceci soit le mieux possible, pour que ça soit autocohérent ou, comme on dit, self-consistant. C'est la raison pour laquelle une telle méthode est appelée aussi quelquefois Hartree-Fock dépendant du temps. C'est un problème où la fonction d'onde s'ajuste pour représenter au mieux le champ moyen créé par les n-1 autres particules. Alors on peut encore faire une autre approximation sur cette équation. N-1 ici, si n est de l'ordre de 10 puissance 4 ou 10 puissance 6, ça peut être remplacé par n. Et on obtient l'équation suivante, que je vais laisser au tableau maintenant. Si je remplace n-1 par n, et si je regarde dans le terme d'interaction, si je suppose que la largeur de variation de phi de R et de T, qui est typiquement de l'ordre de la dimension du condensat, quelques dizaines de microns, est beaucoup plus grande que la portée du potentiel V, qui est de l'ordre de quelques angstroms, je peux à ce moment-là, dans le terme d'interaction, remplacer R par R', parce que V de R moins R' n'est pas nul que pour R moins R' tout petit, sortir V de R moins R', intégrer sur R', et je vais apparaître ici une constante que j'ai appelée juste ici la constante de couplage G, 4 pi h bar 2 sur 4 pi h bar 2 sur M, que petit a. Et j'obtiens donc à ce moment-là une équation qui est moins petit g phi de R et de T au carré. Donc si je prends la normalisation phi phi égale 1, j'obtiens une équation I h bar T sur dt de phi égale moins h bar 2 sur 2m laplacien plus V extérieur phi plus gn phi au module au carré phi. Une équation différentielle non linéaire qui est l'équation de Gross-Pitaïevski dépendant du temps. Si je prends la normalisation phi phi égale n, à ce moment-là, phi de R et de T en module au carré intégré sur R me donne N, donc ça représente la densité de particules, et l'équation de Gross-Pitaïevski dépendant du temps s'écrit de cette manière, où maintenant il n'y a plus de N ici, c'est G phi de R et de T au carré. Je vais laisser cette équation au tableau là-bas. Et c'est maintenant cette équation que nous allons étudier un peu plus en détail, et essayer de comprendre de transformer dans deux limites importantes. Première limite, qu'est-ce qui se passe quand l'amplitude du mouvement autour de la position d'équilibre est suffisamment faible pour qu'on puisse linéariser l'équation? Autrement dit, quelle est la limite de l'équation de Gross-Pitaïevski aux très faibles excitations quand on la linéarise? Deuxième limite importante, qu'est-ce qui se passe à forte densité? À forte densité, l'équation de Gross-Pitaïevski indépendante du temps a été simplifiée de manière spectaculaire en négligeant le terme d'énergie cinétique qui nous a permis d'obtenir immédiatement des formes analytiques. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour l'équation de grosse vitesse qui dépend du temps? Voilà. Les deux questions que je voudrais aborder aujourd'hui, donner un certain nombre de réponses, et la semaine prochaine, nous les appliquerons les résultats obtenus à l'interprétation de toute une série de résultats expérimentaux. Donc, je passe maintenant donc, au deuxième paragraphe. Et cas de faible excitation. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends pour le potentiel V de extérieur de R et de T un potentiel fixe indépendant du temps, V0 de R, plus un petit potentiel dépendant du temps, plus delta V de R et de T, delta V étant très petit devant V0. Alors, si delta V égale 0, j'ai l'équation de grosse vitesse qui est indépendante du temps, et cette équation de grosse vitesse qui est indépendante du temps, vous rappelez sa forme, c'est moins h par 2 sur 2m plus V0 plus Ng, pardon, phi 0 plus Ng phi 0 carré phi 0 égale mu phi 0, qui est une équation écrivant une équation de Schrödinger non linéaire avec une valeur propre qui est mu, mu c'est le potentiel chimique. À ce moment-là, évidemment, si delta V égale 0, je connais la solution de l'équation de Schrödinger, de l'équation de grosse vitesse qui dépendant du temps, ça va être phi de R et de T égale phi 0 de R, où phi 0 de R est la solution de cette équation, et puissance moins I mu T sur H bar. Puisqu'une solution d'énergie mu, c'est sa dépendance dans le temps, c'est puissance moins I T et T sur H bar. Donc, je reprends maintenant un peu transparent. Ceci, le fait qu'en l'absence de perturbation dépendant du temps, ça varie en puissance moins I et mu T sur alpha, conduit à poser, à changer de variable en cas général, et à poser phi de R et de T égale phi tilde de R et de T et puissance moins I mu T sur alpha, puisque si delta V égale 0, à ce moment-là, phi tilde sera constant, donc ça veut dire une sorte de représentation d'interaction, phi tilde va évoluer très lentement. Si delta V est petit, phi tilde va évoluer très lentement, et je pourrais étudier plus précisément son évolution. Alors, on reporte ça dans l'équation de grosse vitesse qui est indépendante du temps, et on obtient pour phi tilde une équation IH bar V sur DT de phi tilde de R et de T égale moins H bar 2 sur 2m delta plus V0 plus delta V moins mu, le moins mu est rajouté à cause de cette fonction qu'on a introduite ici, plus Ng phi tilde au carré phi tilde. Alors, je sais maintenant que phi tilde va très peu différer de phi 0, et il est raisonnable de poser phi tilde de R et de T égale phi 0 de R plus delta phi de R et de T. Si delta V égale 0, ceci est nul, et phi tilde se réduit simplement à phi 0 de R, comme je l'ai prévu ici. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reporte cette expression dans l'équation qui est ici, et on regarde les termes à l'ordre 0 d'abord, à l'ordre 1 ensuite. À l'ordre 0, on retrouve l'équation de Gross-Pitaïski indépendante du temps, automatiquement satisfaite, par définition de phi 0. Et si on ne garde que les termes linéaires en delta phi étoile et delta v, on obtient cette équation. À gauche, ih bar t sur dt delta phi. Ce terme, ça va nous donner moins h bar 2 sur 2m delta phi parce que le terme en phi 0 va disparaître à l'ordre 0. Plus V0. Alors, delta V0, delta phi, ça sera un terme du deuxième ordre, je ne le garde pas. Par contre, je vais avoir delta V0, phi 0, delta V, phi 0, qui lui n'est pas une inconnue, puisque phi 0 est connu, delta V est connu, lui, donc ça va être un terme sourd, delta V, phi 0. Moins mu, plus 2NG. Alors ici, je vais avoir phi étoile, phi, phi. Quand je remplace phi par phi plus delta phi, phi 0 plus delta phi, phi étoile par phi 0 étoile plus delta phi, comme j'ai deux fois phi, je vais avoir un facteur 2. Et je vais avoir plus 2ng phi 0 en modulo carré delta phi, plus ng un seul delta phi étoile, parce que j'ai un seul phi étoile ici, plus ng phi 0 carré delta phi étoile. Donc, je m'aperçois que l'évolution de delta phi est couplée à delta phi et à delta phi étoile. Si je veux une équation linéaire, il faut donc que je considère ce couple de deux variables, delta phi et delta phi étoile, et que je considère donc un vecteur colonne, delta phi étoile, qui satisfait donc à une équation, IH par T sur DT du vecteur colonne delta phi étoile, égale une certaine matrice que j'appelle LGP delta phi étoile, plus un terme source, qui est delta P phi 0, et moins delta V phi 0 étoile, parce que je prends l'équation complexe conjuguée de cette équation-là. Et l'opérateur LGP, la matrice LGP, c'est H0 moins mu, plus 2NG phi 0 module au carré, ici moins H0 moins mu, moins plus 2NG phi 0 au carré. Le moins ici, c'est quand je prends le complexe conjugué, j'ai ici un moins IH bar delta phi sur DT, donc si je voudrais avoir IH bar D sur DT delta phi étoile, il faut que je mette un signe moins partout, NG phi 0 au carré, moins NG phi 0 étoile carré. Voilà l'opérateur LGP. Donc, j'ai obtenu une équation linéaire qui me donne l'évolution du vecteur delta phi étoile. Et la première question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres de LGP. Supposons que LGP admette un vecteur propre UV, de composante UV, de vecteur propre, de valeur propre H par oméga. Si j'écris l'équation de valeur propre, la voilà ici. Donc ce terme qui multiplie U plus NG phi 0 carré qui multiplie V égale H bar oméga U, et puis une deuxième ligne, la même. Si vous prenez les complexes conjugués de ces deux équations et vous les réécrivez dans votre forme, vous vérifiez immédiatement que si UV est vecteur propre de LGP de valeur propre H bar oméga, V étoile U étoile est vecteur propre de valeur propre moins H bar oméga étoile. Alors c'est un problème intéressant d'étudier tous les vecteurs propres et valeurs propres de LGP, de voir s'ils forment un système complet. Je n'ai pas le temps de l'aborder ici, c'est un problème assez complet. Je me concentrerai de dire que si phi 0 est l'état fondamental d'un condensat piégé, et si G est positif, on peut montrer que H bar oméga est réel. Donc si UV est vecteur propre de valeur propre H bar oméga, V étoile U étoile est vecteur propre de valeur propre moins H bar oméga. Le premier va donc évoluer en e puissance moins i oméga t, la solution, et la deuxième en e puissance plus i oméga t. Donc, la solution la plus générale de fréquence oméga, ça va être delta phi étoile, égale un certain coefficient que multiplie la première solution de valeur propre h par oméga, c'est-à-dire uv puissance moins i oméga t, plus un autre coefficient bêta, la solution de valeur propre moins h bar oméga, c'est-à-dire v étoile, u étoile, et puissance i oméga t. Donc voilà delta phi étoile avec un terme en épuissance moins i oméga t, un terme en épuissance i oméga t. Si maintenant je me rappelle que delta phi et delta phi étoile sont complexes conjugués l'un de l'autre, il faut que les deux lignes de ce vecteur colonne, ici et là, soient complexes conjugués l'un de l'autre. Il faut donc que alpha u et puissance moins i oméga t soient complexes conjugués de bêta u étoile et puissance i oméga t, ce qui me donne immédiatement alpha égale bêta étoile. Enfin, u et v ne sont définis qu'à un coefficient multiplicatif près, comme tout vecteur propre, et je peux donc toujours prendre alpha égale 1 égale bêta, de sorte que le delta phi, la variation de phi correspondant à un mode propre de vibration la plus générale s'écrit sous la forme delta phi de R et de T égale U de R et puissance moins I oméga T plus V étoile de R et puissance I oméga T où U de R et V de R sont les composantes du vecteur propre de LGP de valeur propre H bar oméga. Et si je reporte à la temps, puis dans l'expression de phi en fonction de phi tilde, j'obtiens que l'expression la plus générale d'un mouvement harmonique du condensat est donnée par l'expression qui est marquée en vert ici. Alors, tout ceci est un peu abstrait. Il est intéressant maintenant d'essayer de voir ce que ça devient dans un cas simple, qui est le cas du gaz homogène, puisque pour le gaz homogène, avec la transformation de Bobolyubov, nous savons quelles sont les excitations élémentaires du gaz de boson. Alors, appliquons ce formalisme au cas d'un gaz homogène. Pour un gaz homogène, j'ai phi 0 égale 1 sur L puissance 3 demi. L'état fondamental du condensat, c'est avec des conditions et limites périodiques et sur un grand volume, de manière que je puisse négliger les effets de bord, c'est une fonction d'onde uniforme, réelle, 1 sur L puissance 3 demi. Donc n phi 0 carré, c'est n sur l3, c'est rho. Je sais par ailleurs que pour un condensat homogène, le potentiel chimique, c'est rho g, que V0 est nul, puisqu'il n'y a pas de potentiel de piégeage, et que par conséquent, A0, c'est moins H bar 2 sur 2m delta, laplacien. Je cherche des solutions de l'équation de valeur propre de U et V sous la forme d'onde plane, et puissance IKR, ou puissance moins IKR, de sorte que H0U, le laplacien d'une onde plane, c'est H bar 2K2 fois l'onde plane, et moins H bar 2 sur delta de V, c'est aussi H bar 2K2 sur M, 2MV. Alors, si je reviens à l'équation valeur propre générale ici, je vais remplacer ceci par h bar 2k2 sur 2m, ici par h bar 2k2 sur 2m. Mu, c'est moins rog. N phi 0 carré, c'est rho. Donc, j'ai moins rog plus de rog, ça va me donner plus rog ici. Moins rog plus de rog, ça va me donner plus rog ici. Ici, il va y avoir g, n phi 0 carré, ça sera rog ici. Et g phi 0, n phi 0 carré, ça sera rho, moins rog ici. De sorte que l'équation valeur propre de U et V pour un condensat homogène, ça sera h bar 2k2 sur 2m, moins h bar 2k2 sur 2m, plus g rho, moins g rho, moins g rho, égale h bar oméga. Quand j'écris que le système d'équation a une solution non nulle, il faut que j'annule le déterminant de l'équation valeur propre. Je retranse donc moins h bar oméga aux deux éléments diagonaux, et l'équation valeur propre de LGP pour un condensat homogène, c'est ce déterminant égal à 0. Il se calcule immédiatement. Le terme en g de rho 2 se simplifie ici, et je trouve h bar oméga égale racine carrée de h bar 2k2 sur 2m, facteur de h bar 2k2 sur 2m plus 2g rho. Et là, vous retrouvez la célèbre relation de dispersion de Bogoliubov, qui a été établie donc, dans le cours précédent, la première fois par Bogoliubov, et qui décrit le spectre, la relation de dispersion des excitations élémentaires d'un gaz de boson, qui est d'abord linéaire pour les k petits, k plus petit que k0, et qui devient quadratique pour k supérieur à k0. Donc, je vérifie concrètement sur ce cas-là que l'équation de Gross-Pitaevsky dépendant du temps me décrit bien les excitations élémentaires du condensat homogène, et donc je comprends maintenant que cette équation-là, ces équations que j'ai écrites ici, dans le cas où le potentiel extérieur n'est pas nul, il continue dans H0 ici, la résolution de ces équations va me donner les fréquences propres de vibration du condensat. Et effectivement, ces équations ont été résolues numériquement par toute une série d'auteurs, un très grand nombre d'articles qui ont été consacrés à la résolution numérique de ces équations et dont les références peuvent être trouvées dans l'article de revue de l'équipe de Stringari qui a fait un séminaire la semaine dernière, Sandro Stringari. Voilà donc une première approche qui est l'approche linéarisation. Et maintenant, je vais passer à une deuxième approche, qui est l'approche des densités élevées, mais auparavant, avant d'aborder le cas des densités élevées, je vais repartir sur l'équation de Gross-Pitaevsky dépendant du temps, et je vais la réécrire sous une forme absolument équivalente, sans faire aucune approximation supplémentaire, autre que celle qui conduit à ces équations précisément. Donc, je vais prendre maintenant un premier paragraphe qui va être réécriture de l'équation de Gross-Pitaevsky dépendant du temps. Encore une fois, je ne fais aucune approximation. Simplement, je la réécris de manière différente. Alors d'abord, dans ce type de traitement, on prend en général la deuxième normalisation qui est ici. On prend phi phi égale n. De sorte qu'il faut utiliser la deuxième équation qui est écrite là-bas. Et de sorte que le module de phi au carré est égal à rho. Donc le module de phi est égal à racine de rho. Et au lieu de m'intéresser à phi, je vais m'intéresser séparément au module de phi et à la phase de phi. De manière générale, phi de rho et de t, de r et de t, c'est un module racine carrée de rho de r et de t que multiplie exponentielle if de r et de t, une phase. Et la question qu'on va se poser maintenant, on va remplacer l'équation de défi et de défi étoile, complexe conjugué, par deux équations, l'une sur rho et l'autre sur s, où nous allons voir une quantité différente, légèrement différente de s, qu'on appelle la vitesse, le champ de vitesse. Donc, on voit tout de suite apparaître ici la nécessité, comme on a dans l'équation de Gross-Pitaevsky à Laplacien, la nécessité de calculer les dérivées spatiales de rho et de s. Donc, j'ai donné les détails de calcul dans les notes, donc je les refais très rapidement sur transparent. Si on pose phi égale racine de rho et puissance IS, le gradient de phi, c'est le gradient de racine de rho et puissance IS, plus le gradient de puissance IS qui est I et puissance IS gradient de S, donc voilà le gradient de phi, et on voit apparaître donc que dans le gradient spatial de phi, il n'y a pas seulement le gradient du module, mais il y a également le gradient de la phase. Il ne faut pas l'oublier, hein, très important. Pour calculer maintenant le laplacien de phi, j'utilise la formule que la divergence de AU, c'est divergence gradient A scalaire U plus A divergence U. J'applique cette formule à ceci, et j'obtiens le laplacien de phi avec quatre termes, dont deux sont réels et deux imaginaires, et qui font intervenir soit le laplacien de racine de rho, soit le laplacien de S, soit les gradients de racine de rho et les gradients de S. Alors, ayant fait ces calculs d'analyse vectorielle élémentaire, une première équation importante, c'est ce qu'on appelle l'équation de continuité. Rho, c'est phi étoile phi. Donc, IS bar d sur dt de rho, c'est IS bar phi étoile dt sur dt plus IS bar phi étoile dt étoile sur dt phi. En écrivant l'équation de Gross-Pitewski, la complexe conjuguée de cette équation, en multipliant l'une par phi étoile, l'autre par phi en soustrayant, tous les termes autres que le laplacien s'en vont. Il me reste, c'est un calcul élémentaire qu'on fait en mécanique quantique pour la conservation de la norme, et on trouve IH bar d sur dt de rho égale moins h bar 2 sur 2m, phi étoile laplacien phi, moins phi laplacien phi étoile, quantité appelée A ici. Si j'utilise le laplacien phi, comme je prends ici la différence, ça revient à garder uniquement la partie imaginaire, et on trouve immédiatement que A est égal à 2 fois ce terme, plus 2 fois ce terme, qu'on a multiplié par phi étoile, on a enlevé le puissance moins IS, et on a ajouté un racine de rho. On obtient A égale 4i racine de rho, laplacien de racine, gradient de racine de rho, scalaire gradient de S, plus 2, moins 2i rho, laplacien de S. Racine de rho, gradient de racine de rho, c'est 1 demi de gradient de rho. Et on obtient cette expression. Et en utilisant cette égalité ici, on obtient que A, c'est 2i la divergence de rho, gradient de S. De sorte que l'équation donnant rho m'écrit d rho sur dt plus divergence de rho h par sur m gradient s égale 0. Ceci me conduit à introduire une autre grandeur à la place de s, qui est v de r et de t égale h par sur m gradient de s de r et de t. Si je pose v de r et de t égale h par sur m gradient de r de s de t, de s de t, oui, j'obtiens 0 sur dt plus divergence de rho v égale 0, qui a la forme désirée d'une équation de continuité, qui exprime que le nombre de particules dans un volume d3R, sa variation dans le temps, correspond aux particules qui rentrent moins les particules qui sortent. Et on voit apparaître donc que, ici, pour ce fluide que nous étudions maintenant, on voit apparaître que s ici, ce qui est important, c'est son gradient. D'ailleurs, c'est un peu satisfaisant, puisque s n'est défini qu'à une constante globale près. La phase de la fonction d'onde est définie qu'à une constante près. On voit donc que le gradient de S ne dépend pas de cette constante globale près, mais que le gradient, la manière dont S varie dans l'espace, me donne finalement la vitesse, le champ de vitesse. J'ai un champ de vitesse ici, V de R et de T. Alors, je déduis ça de l'équation de Schrödinger, de l'équation de Gross-Pitewski, dépendant du temps. Alors, maintenant que j'ai l'équation de continuité pour rho, question, quelle est l'équation de mouvement de V? Pour calculer maintenant t sur dt de v, voilà, ici. Alors, on a ih bar d sur dt de phi, comme phi c'est racine de rho et puissance is, et ih bar d sur dt de racine de rho et puissance is, moins h bar racine de rho d sur dt puissance is. Si je multiplie ça par phi étoile, si je prends l'équation complexe conjuguée, je multiplie par phi, je fais la différence, je fais disparaître, ça revient à prendre, je fais disparaître ce terme-là, et je ne garde que celui-là, en enlevant le puissance IS ici, en rajoutant racine de rho, et j'obtiens que cette quantité-là, phi étoile dt sur dt moins phi dt étoile sur dt, c'est moins 2s bar rho dS sur dT. Et je vois apparaître ici P. Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait un signe plus, qu'on avait calculé d0 sur dt, on avait un signe plus, et qu'on avait pris le signe plus, on avait fait disparaître tous les termes autres que le laplacien, on avait obtenu phi étoile laplacien phi moins phi de laplacien phi étoile. Ici, au lieu d'avoir phi étoile laplacien phi moins phi laplacien de phi étoile, on va avoir le signe plus ici, et par contre, les termes en z extérieur et en g ne s'annulent plus, et je vais avoir plus 2 z extérieur, ils vont se doubler, au contraire, plus 2v extérieur phi 2, plus 2g phi 4. Alors, le laplacien, je l'avais tout à l'heure, ici. Quand je prends la somme des deux ici, ça revient à prendre la partie réelle du laplacien, c'est-à-dire ces deux termes-là, maintenant. Et après, on obtient cette ligne, et on obtient ici tout simplement 2v extérieur plus 2g rho 2. Donc j'ai calculé b ici. Il suffit maintenant de prendre le gradient de cette quantité, et de multiplier par h bar sur m pour faire apparaître dd sur dt, d'utiliser cette équation, et on obtient l'équation marquée en rouge ici, que je vais réécrire ici. Donc on a une première équation 1 ici, qui était 0 sur dt, plus divergence de ρv égale 0. Et une deuxième équation 2, qui va être m d rond sur dt de v, égale gradient, de moins h bar 2 sur 2m, 1 sur racine de rho, laplacien de racine de rho, moins 1,5 de mv2, moins v extérieur, moins g rho. Donc j'ai remplacé l'équation de Gross-Pitaïsky par deux équations strictement équivalentes, et j'ai fait les calculs en détail pour que vous voyez d'où ça sort, tous les différents termes. La première est une interprétation physique très simple. La deuxième rappelle beaucoup les équations de l'hydrodynamique, à part qu'on a ce terme un peu mystérieux là, moins h bar 2 sur 2m, 1 sur racine de rho, laplacien de racine de rho, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les équations d'hydrodynamique, et qu'on appelle pour cette raison le terme de pression quantique. Bon, alors maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour aborder le quatrième point, qui est-ce qu'on peut simplifier ces équations, soit celle-là qui est absolument équivalente, et est-ce qu'on peut étudier le cas haute densité, grande densité, par des approximations analogues à celles de Thomas Fermi pour le cas indépendant du temps. Donc je passe maintenant au quatrième partie. Si vous voulez, avant de me poser, d'essayer de simplifier cette équation, je vais revenir un petit peu en arrière et je vais revenir sur l'approximation de Thomas Fermi à l'équilibre. Je crois que c'était le cours 6. Dans le cours 6, j'ai montré que la grande densité, ça voulait dire n, le nombre de particules, a, la longueur de diffusion, divisé par sigma, où sigma c'est l'extension de la fonction d'onde de l'état fondamental du piège, pour le seul état harmonique, c'est racine d'h bar sur m oméga, grande devant 1. Ça ne veut pas dire que le milieu n'est pas dilué. On peut avoir des interactions fortes. Le milieu peut être considéré comme avec des interactions fortes si n a sigma très grand devant 1, mais on peut avoir en même temps A, la longueur de division divisée par la distance moyenne entre particules, plus petit que 1. C'est-à-dire, cette condition, on peut aussi l'écrire rho à cube, plus petit que 1. Alors, ce que nous avons montré dans le cours 5, à ce moment-là, c'est que pour la configuration d'équilibre du condensat, la largeur du condensat était telle que la contribution du terme d'énergie cinétique, moins h bar plus 2 sur 2m laplacien, était très petite devant la contribution du terme d'interaction qui était en g rho. Non, ce qu'on avait fait, pour obtenir des résultats très simples et analytiques, on avait négligé moins alpha 2 delta m, ce terme-là, moins alpha 2 delta m, laplacien phi, on avait montré qu'il était très très petit devant le terme en géro phi. Alors, la première tentation qu'on a, c'est de dire on va prendre cette équation et on va négliger le terme en moins alpha 2 sur 2m laplacien. Négliger le laplacien dans l'équation de Gross-Pitewski dépendant du temps. C'est-à-dire négliger le terme d'énergie cinétique devant les autres termes. Alors, ceci est un contre-exemple très simple, on pense que c'est absurde. Dans les expériences d'expansion balistique, qui sont censées être décrites par cette équation, l'énergie d'interaction du condensat initial à l'équilibre, qui est très importante devant l'énergie cinétique, va se transformer intégralement en énergie cinétique d'explosion. Et c'est cette énergie qu'on mesure précisément dans les expériences. Donc, il serait ridicule de négliger le terme qu'on veut mesurer précisément. Alors, ça, c'est un argument physique. Mathématiquement, où on fait l'erreur? L'erreur, c'est que dans un condensat en équilibre, phi est en général réel, dans l'état fondamental, à 0 degré, et le laplacien de phi, à ce moment-là, ne fait intervenir que le laplacien de la densité. Quand le condensat explose, ou quand il vibre, phi n'a aucune raison de rester réel. Il apparaît des phases décrivant les vitesses des particules. Par exemple, je suis sûr que vous avez tous étudié, on étudie tous en mécanique quantique le mouvement d'un paquet d'ondes gaussien, qu'on peut libre, on peut le calculer exactement. Si on prend un paquet d'ondes gaussien réel au début, les oscillations de phase dans les ailes du paquet d'ondes qui sont d'autant plus rapides qu'on est loin. C'est-à-dire que le paquet d'ondes libre gaussien qui s'étale, il est plus bleu sur les ailes qu'au centre. Donc, ça n'aurait aucun sens de négliger le laplacien parce que certes, le laplacien de la densité de la partie racine de rho, lui reste petit parce qu'effectivement, un condensat qui explose, par exemple, sa largeur ne fait qu'augmenter. Et donc, si on peut négliger le laplacien de rho au début, on peut encore certainement le négliger après. Le problème, c'est qu'il y a en même temps des gradients de phase et des laplaciens de phase qui apparaissent dans moins h bar 2 sur 2m laplacien de phi. Donc, on ne peut pas négliger moins h bar 2 laplacien de phi, mais on pourrait négliger moins h bar 2 sur 2m laplacien de rho, mais pas moins alpha 2 sur 2m laplacien de S, ou gradient de S. Et c'est là que l'écriture équivalente qui est donnée ici est très agréable, parce que sur cette écriture-là, n'apparaît ici que le laplacien de racine de rho. Le laplacien de S et les divergences de S ont été réintégrés dans ce terme-là, et dans ce terme-là. Donc, alors qu'on ne sait pas bien faire l'approximation sur cette équation, on sait beaucoup mieux la faire sur cette équation, il suffit de négliger ce terme-là. Donc, l'équivalent de l'approximation de Thomas-Carmi à l'équilibre pour les problèmes dépendants du temps, ça consiste à négliger le terme de pression quantique, parce que le terme de pression quantique ne fait intervenir que le laplacien de racine de rho, et non pas le laplacien de la phase, ni les gradients de la phase. Alors, faisons ça quand même un peu plus précisément. Pour une expérience d'expansion balistique, c'est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la largeur du paquet, la largeur du condensat ne faisant qu'augmenter, si on néglige laplacien de rho au début, on est tout à fait légitime de le négliger ensuite. Pour les expériences de vibration, il faut faire un peu plus attention. Prenons d'abord un condensat homogène, un gaz homogène. À quoi faut-il que je compare Géraud? Dans un condensat homogène, le terme d'interaction, c'est Géraud. À quoi faut-il que je le compare? Il faut que je compare à quelque chose qui varie dans l'espace, c'est-à-dire une excitation du condensat, une onde de vecteur d'onde K, c'est-à-dire de longueur d'onde lambda égale de pi sur K. D'accord? Et il faut donc que les dérivées spatiales, h par 2, k2 sur 2m, qui c'est l'énergie cinétique, soient petites devant Géraud. Donc, pour un condensat, je pourrais négliger dépendant du temps, je pourrais négliger le terme de pression quantique. Il faut bien voir que quand il y a une oscillation qui apparaît dans un condensat, la densité aussi est modulée à la fréquence spatiale lambda, donc h par 2, 4, 2 sur 2m. Donc il faut, cette approximation que je fais là ne marchera que si h par 2, 4, 2 sur 2m est beaucoup plus petit que g rho, qui est égal lui-même à g 4 pi h bar 2 sur m, petit a, et h bar 2 sur m sans rond, et je trouve qu'il faut que k2 soit beaucoup plus petit que k02, égale 8 pi à rond. Et je vois apparaître ici quelque chose de familier, ça c'est 1 sur 6 0 2, où 6 0, c'est 1 sur racine de 8 pi à rond, que j'ai appelé la longueur de relaxation pour expliquer que c'était la distance sur laquelle variait le condensat avant de s'annuler sur une paroi. C'est aussi la largeur de la fonction de corrélation à deux corps qui part d'une valeur factorisée quand on est loin et qui tend vers zéro quand on est près. Et la largeur de ce trou dans la fonction de corrélation, c'est ce qu'on appelle également la longueur de cohérence. Donc ceci, c'est la longueur de relaxation, appelée aussi souvent la longueur de cohérence. Donc, je n'ai le droit de négliger le terme d'énergie cinétique dans, pour un gaz homogène que si K est plus petit que K0, si la longueur d'onde des excitations est grande devant la longueur de cohérence ou la longueur de relaxation. Et à ce moment-là, effectivement, je trouve une relation de dispersion oméga égale CK qui est la dispersion des phonons. Donc, je n'aurais pas le droit de faire cette approximation pour étudier la partie quadratique où l'énergie est essentiellement une énergie cinétique. Pour un condensat dans un piège, il faut faire un peu également regarder ce qui se passe ici. D'abord, c'est une question que je n'ai pas eu le temps d'aborder précédemment. Comment se compare la longueur de relaxation, la longueur de cohérence à la dimension du condensat? On répond tout de suite à cette question en disant, si je sais que la force densité, ça correspond à nA sigma plus grand que 1. Et je peux faire cette formule-là sous la forme n sur sigma 3, sigma 2a plus grand que 1. J'ai multiplié haut et bas par sigma 2. Si j'admets donc n sur sigma 3, c'est le nombre total de particules divisé par le volume du condensat, en supposant qu'il n'a pas encore trop grossi, hein, ça c'est rho. Et j'obtiens donc que sigma 2, beaucoup plus grand que 1 sur a rho, et en prenant la racine, j'ai sigma, la dimension du condensat, beaucoup plus grand que 1 sur racine de a rho, qui est la longueur de cohérence. Donc, un condensat piégé, quand il est dans le régime forte densité, la longueur de cohérence est petite devant les dimensions du condensat. Donc j'ai xi 0, très très petit devant sigma. Je sais maintenant que si je prends dans un condensat piégé une oscillation, un mode de vibration avec, caractérisé par une longueur d'onde lambda, je n'aurai le droit de négliger le terme de pression quantique que si le gradient du module, c'est-à-dire h bar 2, k2 sur 2m, est petit devant g rho. C'est-à-dire si lambda, la longueur d'onde qui caractérise le mouvement de vibration du condensat, est grande devant xi 0. Donc, je ne pourrais utiliser cette approximation, c'est possible parce que j'ai cette condition-là, que si xi 0, si lambda est plus grand que xi 0, est plus petit que sigma. Il faut que les longueurs d'onde qui caractérisent les modes de vibration du condensat soient grandes devant xi 0, en restant petites ou de l'ordre de sigma. Ça veut dire en particulier que les équations que j'obtiens en négligeant ceci ne pourront pas décrire les modes de vibration très élevés du condensat. Elles ne pourront s'appliquer qu'aux modes où la longueur d'onde de vibration, si on peut définir une longueur d'onde pour un objet qui est en train de bouger comme ça, est quand même reste grande devant la longueur de cohérence. Alors, si on néglige ce terme, on va avoir deux équations maintenant, qui rappellent beaucoup les équations de l'hydrodynamique, et qui sont en fait les équations de l'hydrodynamique d'un superfluide, quand on néglige, disons, la contribution du gaz thermique qui, par collision, introduit des processus dissipatifs dans le condensat. Alors, on peut donner une interprétation physique maintenant de la deuxième équation, qui est extrêmement simple. Quand on néglige le terme de pression quantique, on a donc ceci. si on applique l'identité d'analyse vectorielle U gradient agissant sur U égale rotationnel U vectoriel U plus 1/2 du gradient de U2, si on l'applique au vecteur V, défini par cette formule, comme c'est un gradient, le rotationnel de V est nul, et on a donc V gradient V égale 1/2 de gradient V2, de sorte que ce terme-là, en le faisant passer dans le premier membre, et en mettant M en facteur, on peut l'écrire M dV sur dt plus V gradient V égale moins gradient de V extérieur moins gradient de 0, et ce terme dV sur dt plus V gradient V, on reconnaît quelque chose qui est très très connu hein, en physique classique, c'est la dérivée totale, ou la dérivée hydrodynamique, c'est la variation de vitesse qu'on suit la particule dans son mouvement. C'est la dérivée partielle par rapport au temps, plus V, la dérivée spatiale. Donc c'est dV sur dt droit. Et la deuxième équation ici, c'est tout simplement l'équation de la dynamique, qui dit que si on suit une particule dans son mouvement, son accélération, que multiplie M, c'est la force, la somme des forces qui agissent sur elle, force due au potentiel, et force due aux interactions avec les autres particules moins G de gradient de rho. D'ailleurs, ce terme-là, je peux également le transformer un peu, et ça me permet d'introduire des notions que je n'ai pas eu le temps d'introduire avant. La notion de pression. Si je reviens à un condensat homogène, je sais qu'un condensat homogène en équilibre, l'énergie d'interaction, l'énergie totale, il n'y a pas d'énergie cinétique parce qu'il est, il est constant, uniforme. Il n'y a pas d'énergie de piégeage, je suppose que les parois sont très très loin. Et toute l'énergie, c'est de l'énergie d'interaction, et c'est n fois g sur 2 rho, l'énergie d'interaction. C'est donc 1/2 de g m2 sur v. G est une constante, et je m'aperçois que l'énergie d'un condensat homogène, en équilibre, ça dépend de deux variables n et v, et donc la pression, qui est la moins d sur dv de l'énergie totale, et 0 de nv, c'est donc moins 1/2 de g n2 sur v2, c'est 1/2 de g rho 2. Donc dans un condensat homogène, où il y a des interactions, la pression c'est 1/2 de g rho 2. Je vous rappelle en particulier le résultat de l'an dernier, un condensat de particules libres, sans interaction, la pression était nulle. Parce que toutes les particules qui ne sont pas condensées, il n'y a pas de particules qui ne sont pas condensées et elles ne contribuent pas à la pression. On voit d'ailleurs que la pression dépend visiblement de la constante G qui décrit les interactions. Si on est maintenant dans un gaz inhomogène, mais si on a une densité qui varie suffisamment lentement dans l'espace, on peut introduire la notion de pression dépendante de R par 1/2 de G rho carré au point R. Si maintenant je prends un élément de volume du D3R du fluide qui contient rho D3R particules, et si je fais le bilan des forces de pression qui s'exercent sur lui, je vais avoir P plus DP, P ici, ça va être le gradient P qui multiplie DZ, et puis sommet sur S, je m'aperçois que la force qui agit sur cet élément rho D3R, c'est moins gradient P D3R. C'est donc, si je remplace P par 1/2 de G rho 2, le gradient de rho 2 c'est rho 2 rho G gradient rho, c'est moins G rho gradient rho D3R. Donc là, voilà la force qui s'exerce sur une partie du fluide. Cette partie du fluide contient rho de R des 3R particules. Donc s'il divise par rho de R des 3R, j'obtiens la force qui s'exerce par particule, qui est moins G gradient de rho. Et je retrouve exactement la force que j'avais tout à l'heure. Moins G gradient de rho, c'est la force de pression qui s'exerce sur chaque particule individuellement. Autre chose, tant que j'ai ces équations maintenant, je peux me poser la question. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un problème indépendant du temps? Quand j'ai un problème indépendant du temps, rho est constant et V est nul. Alors, la première équation est automatiquement satisfaite. La deuxième équation, dV sur dt est nul, c'est gradient de 1/2 de mv2 est nul. Par contre, ces deux termes ne sont pas nuls. Et j'obtiens, la deuxième équation me donne le gradient de G rho 0 plus V extérieur égale 0, c'est-à-dire que G rho 0 de R plus V extérieur de R ne dépend pas de R puisqu'il a un gradient nul. Et si j'appelle mu cette constante, je m'aperçois que rho 0 de R égale 1 sur G mu moins V extérieur de R, et vous retrouvez ici ce que j'avais obtenu au cours 6 comme approximation de Thomas Fermi. Donc effectivement, le fait d'avoir négligé ce terme-là est bien consistant avec, est bien cohérent avec l'approximation de Thomas Fermi pour un problème à l'équilibre indépendant du temps. Enfin, dernier point, et je m'arrêterai après. Ces équations-là, qui sont strictement équivalentes à l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps à la limite des fortes densités, c'est quand même des équations non linéaires. Est-ce que je peux les linéariser et obtenir des équations qui me décrivent les faibles excitations? Les faibles excitations, mais à forte densité. Tout à l'heure, les deux équations couplées que j'avais écrites étaient des faibles excitations à densité quelconque, c'était linéaire. Maintenant, je prends des faibles excitations à forte densité. Alors, on écrit rho de R et de T égale rho 0 plus delta rho, et V de R et de T égale V0 plus delta V. Par rapport à l'équilibre, je prends des quarts delta rho et delta V. À l'équilibre, j'ai V0 égale 0, et rho 0, c'est 1 sur G, mu moins V extérieur de R, c'est l'approximation de Thomas Fermi. Alors, je reporte ces choses-là dans la première équation, l'équation de continuité. J'obtiens D sur DT de delta rho égale moins gradient rho 0 de delta V. Je n'ai pas de terme en delta rho V0 parce que V0 est nul. J'aurais ici delta rho V0 plus rho delta V. Mais V0 étant nul, je n'ai pas de terme en delta rho, donc rho 0 delta V. Et la deuxième équation va me donner M sur D sur DT de delta V. Bon, ce terme n'existe pas. Ici, j'aurai V0 delta V, mais comme V0 est nul, ça s'en va. Et ici, quand je remplace rho par rho delta rho, j'obtiens delta rho. Et évidemment, le terme en V2 ici a disparu avec rho 0 ici, puisque j'ai 1 demi de MV2 moins G rho 0, son gradient est nul. Donc, j'obtiens donc deux équations linéaires qui couplent delta rho et delta V, sont ici. Je prends une deuxième fois la dérivée de cette équation par rapport à T, et j'ai delta V sur DT, j'utilise cette équation pour éliminer delta V, et on obtient une équation aux dérivées partielles, qui est T2 sur DT2 de delta rho et R et de T, égale G sur L, divergent de rho 0 gradient de delta rho. Une équation en dérivée partielle, et la solution de cette équation en dérivée partielle va me donner les fréquences propres de vibration à haute densité, mais de faible amplitude. Là encore, pour se familiariser un peu avec cette équation, qu'est-ce qui se passe dans le cas du gaz homogène, où rho 0 est indépendant de L, et remplacé par rho, à ce moment-là je peux le sortir, et je vois apparaître T2 sur DT2 égale G sur M laplacien, je multiplie G rho 0 sur M, c'est-à-dire 1 sur C2, D2 sur DT2 moins laplacien delta rho de R et de T égale 0, où C2 égale 0 sur M. Et qu'est-ce que je trouve là? Je trouve la loi de propagation des ondes sonores dans un condensat homogène avec la vitesse oméga égale CK, où C est donné par racine de G rho sur M. Je retrouve bien que l'approximation de Thomas Fermi, l'équivalent de l'approximation de Thomas Fermi pour un condensat homogène, ne marche que dans le régime K plus petit que K0, où on a effectivement une propagation avec une vitesse racine de 0 sur n. Voilà, alors, en principe, il y aura encore un petit calcul à faire, mais je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai au début de la semaine prochaine, c'est qu'il est encore possible, une fois qu'on a ces deux équations, il est possible de les simplifier encore plus, dans le cas particulier où le potentiel est quadratique, qui est la plupart des cas réalisés, il est possible d'écrire à ce moment-là, de remplacer ces équations aux dérivées partielles couplées, quand le potentiel extérieur est harmonique, il est possible de les remplacer par des équations différentielles couplées, décrivant un simple processus de dilatation du condensat, comme l'a montré pour la première fois Yvan Castin et Ralph Toum. Il est possible à ce moment-là d'introduire, de résoudre les équations par un simple changement d'échelle, et de remplacer les équations d'hydrodynamique ici, par des équations différentielles linéaires couplées qui sont beaucoup plus faciles à résoudre. Et ça permet d'étudier à ce moment-là quantitativement l'expansion balistique du condensat et un certain nombre de mode de fréquence propre de vibration. Donc je m'arrête là aujourd'hui. Je rappelle tout à l'heure le séminaire du professeur Tennis à 11h, et la semaine prochaine, je terminerai donc le cours cette année avec une revue des expériences de dynamique des condensats.